Je suis sur un bateau qui prend l'eau, et chaque semaine, votre visite me permet d'écoper et d'éviter de couler.
Quand j'ai reçu plusieurs cartes postales, l'attitude des surveillants a changé, car ils ont dit « Vous avez des amis de partout ».
En 2 ans de prison, vous êtes la seule personne à m'avoir appelé par mon nom.
Dès le mardi soir, je me réjouis, car le lendemain, vous venez me voir. Vous êtes le seul repère de ma semaine.
Votre démarche apaise rancœur et amertume de notre condition.
Merci à vous, bénévoles, œuvrant dans l'ombre pour atténuer la pesanteur de notre sanction.
En 10 ans de détention, je ne me suis pas suicidé car j'attendais votre lettre hebdomadaire et je voulais pouvoir vous répondre.
J'ai changé parce que vous m'avez fait confiance.
Vous venez me voir gratuitement. C'est signe que je compte pour vous.
Quand j'ai dit à mes parents que vous veniez me voir toutes les semaines, ils étaient tout contents pour moi.
En recevant votre carte postale...
C'est un peu de soleil qui est entré dans ma cellule.
J'ai affiché votre carte sur le mur de ma cellule.
À côté de la photo de mes enfants.
Quand la prison est terminée, c'est terminé, on n'en parle plus. On recommence autre chose ailleurs et on oublie complètement cette période-là.
Égalité. Terminus. Jamais.
C'est la chronique des repérés. Ici, on y est.
Alors là, on va rencontrer Monsieur Jean-Yves Henry, qu'on avait croisé une première fois à l'occasion d'un repère en octobre 2009 sur les prisons, qui est visiteur de prison. Et on va lui poser un tas de questions sur comment ça se passe derrière les murs. Et le fonctionnement, l'organisation, le rôle du visiteur de prison et comment on le devient. Alors, on a rendez-vous à 14h au Palatium, qui se trouve sur la place de l'ancien tribunal et juste à côté de la maison d'arrêt. Et il doit être 14h moins 1. Voilà, je les vois assis à une table.
Alors, qu'est-ce que vous prenez ?
Un café ?
Oui.
Tous les samedis depuis 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis visiteur de prison. J'étais fonctionnaire quand j'étais en activité. Puis, je me suis fâché avec les syndicats que je représentais à l'époque. Donc, un jour, j'ai tout plaqué. Et vous savez, ce qui arrive toujours dans les grandes sociétés comme ça, c'est qu'il y a un jour quelqu'un qui part en retraite, quoi. Et on lui pose la question, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Et il dit, je vais devenir visiteur de prison. Ça m'a fait tilt. C'est pas si bête que ça. Visiteur de prison, ça me plairait pas mal. Mais si vous voulez, je peux vous le dire par rapport à tous les autres visiteurs de prison que je rencontre, c'est pas une décision qu'on prend comme ça un beau matin. C'est un truc qui est réfléchi pendant de nombreuses années, pour plusieurs mois ou des trucs comme ça. Et puis un jour, j'ai sauté le pas. J'ai écrit à l'administration pénitentiaire qui m'a proposé de rencontrer un autre visiteur de prison. Je suis allé chez lui, on a passé une après-midi ensemble à discuter, à parler, etc. Puis je me suis dit, oui, au fond, c'est à peu près ce que j'attendais, ce que j'estime corresponde à mes idées. Et j'ai fait les démarches. Alors, vous avez vous écrivez à l'administration pénitentiaire une lettre de motivation. Pendant que vous êtes, en principe, si au bout de 3 mois, vous devez avoir une réponse oui ou non, vous allez être agréé ou pas, selon le cas, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de visiteurs qui sont limités dans chaque établissement. Il y a pour un visiteur pour 20 détenus, en moyenne, c'est une moyenne à peu près. C'est selon les demandes, parce que ce sont les personnes détenues qui demandent à rencontrer des visiteurs de prison et non pas l'inverse. Donc, vous avez une lettre qui vous vient de l'administration pénitentiaire qui vous dit, écoutez, oui, on va examiner votre cas. Pendant ce temps-là, il y a une enquête de gendarmerie ou de police pour déterminer si vous avez un casier judiciaire vierge. Ça me paraît évident. Et puis, vous êtes reçu par l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire les services du SPIP, service de probation et d'insertion pénitentiaire, et puis ils font un petit rapport et vous recevez une première carte de une carte d'agrément de 6 mois. Qui vous permet, en fait, quelque sorte, si vous voulez, de tester, en quelque sorte, si ça correspond à ce que vous souhaitez, hein, et si ça marche bien avec les personnes détenues, parce que, bah, au bout de 6 mois, vous pouvez dire, bah, écoutez, non, bah, j'ai fait l'expérience, ça ne m'intéresse pas, j'arrête là. Hein. Bon, ce qui n'a pas été mon cas, puisque j'ai rencontré des gars assez sympathiques le premier samedi, et puis je me suis dit, bon, bah, je suis venu là, bah, je vais recommencer, quoi. J'aurais promis de venir, et puis finalement, bon, j'y vais tous les samedis depuis 12 ans. J'habitais à l'époque tout près du centre de détention. J'étais presque voisin, pas très loin, hein, puisque j'habitais à Orvault. Et puis, bah, j'aime bien discuter, j'aime bien parler, j'aime bien échanger avec les gens. Je me suis dit, je vais essayer. Si ça ne marche pas, bah, j'arrêterai. Si ça marche, hein, je continuerai. Et puis, c'est comme ça que ça s'est parti, quoi.
Et alors, qu'est-ce que, au bout de 12 ans, pourquoi vous continuez à le faire ?
J'espère. Je ne sais pas si c'est vrai. J'espère apporter quand même quelque chose aux gens. Et j'ai eu des remerciements. Moi, j'ai eu un gars qui est parti à Brest. Il m'a écrit. J'ai compris que c'était une lettre d'adieu, hein, parce que dans la manière dont il s'exprimait, etc. Mais il me remerciait chaudement des années qu'il avait passées avec moi en détention, etc. Bon, je me suis dit, j'ai peut-être fait quelque chose de bien pour ce type-là. Comme il y en avait un autre, parce que c'était un peu plus amusant aussi. C'était un gitan, tant qu'il n'avait jamais été à l'école. Donc, il savait ni lire ni écrire. Et alors, il ne travaillait pas en prison. Alors, quand je le voyais le samedi matin, je lui disais, ben alors, qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Rien. Bon, ben, je lui disais, avec ça, on va aller loin pour faire une conversation avec ça. Hein. Au bout d'un certain temps, je l'ai un peu cuisiné, puis je lui ai dit, mais si j'ai bien compris, tu sais ni lire ni écrire ? Ben non, pas beaucoup. Hein. J'ai été quelques années à l'école, mais pas beaucoup. Alors ce que j'ai fait, c'est interdit, mais ça je l'ai fait quand même. J'ai amené un petit bouquin de sélection, vous savez, ça se glisse dans les poches de veste assez facilement, c'est des petits bouquins, vous savez, mensuels là. Et puis, ben, on passait notre temps à lire. Je faisais lire, et alors, il lisait mot par mot, avec, etc. Et quand il est parti, quand il était libéré, il était très fier de me dire qu'il lisait La Petite Maison dans la Prairie, parce qu'il voyait ça à la télévision à l'époque. La première rencontre, ben, je fais toujours comme ça, si vous voulez. D'abord parce que je ne connais pas la personne que je vais rencontrer. Donc, j'ai sur un carton qui est grand comme ça, qui est à mon nom, il y a une petite fiche qui vient se placer de couleur bleue avec le nom d'une personne détenue, son numéro d'écrou, le nom du service pénitentiaire qui le suit, la personne qui le suit, et puis le bâtiment. Bon. Donc, on donne le carton au surveillant de parloir qui est là et il appelle la personne en question. Alors, ce que je fais généralement lorsqu'on rentre tous les deux dans le parloir, bah, je commence par me présenter, dire qui je suis, ce que j'ai fait, etc. Et puis, bah, quand j'estime avoir donné suffisamment d'informations sur ce que je suis personnellement, sans rentrer trop dans les détails, je lui dis bah, « et vous ?» Donc, il est bien obligé un peu de s'exprimer lui aussi. Et puis, bah, après, on improvise. Hein. Après, on essaye de voir et de discuter avec les gens.
Mais alors, pour que je comprenne bien, vous revoyez quand même les mêmes personnes, vous suivez...
Toutes les semaines, jusqu'à leur libération. Là, je viens d'en prendre un. Il va être libéré en 2018. J'ai le temps d'apprendre... Alors, c'est un Lituanien. Il parle 3 mots de français et 4 de russe. C'est pas évident du tout à comprendre. Quand je l'ai pendant 3 quarts d'heure, je suis fatigué parce que j'essaye de ne pas trop le faire répéter trop souvent les phrases pour essayer de comprendre ce qu'il me dit. Mais je crois qu'en 2018, je connaîtrai le russe. Hein. Moi, j'interviens uniquement en centre de détention. Alors, s'il faut savoir qu'en maison d'arrêt, par exemple, je vais prendre le cas sur Nantes, on est 40 visiteurs. Il y en a 4 à la maison d'arrêt, 36 autres au centre de détention. Pour la simple et unique raison, c'est que les gens qui sont en maison d'arrêt sont là pour un temps très court. Quelques mois, quelques semaines, voire 24 heures ou 72 heures. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un visiteur de prison pour ces gens-là. Donc il y a très très peu de demandes en maison d'arrêt. Par contre, en centre de détention, vous avez des gens qui sont condamnés à plusieurs années de prison. 7, 8, 10, 15 ans, quelque chose comme ça des fois. Bon, les très très longues peines, c'est en maison centrale. Alors la maison centrale, c'est à l'île de Ré. Hein. Mais bon, moi, ce que je rencontre, ce sont des gens qui sont donc en centre de détention, qui sont condamnés à 6 ou 7 ans. Donc, si vous voulez, les visiteurs de prison sont là pour écouter les gens. On est là pour écouter. C'est un peu un rôle particulier, parce qu'on n'est pas thérapeute, mais on exerce une fonction de thérapeute, en quelque sorte, vis-à-vis de ces gens-là. Donc on parle de tout, on parle de rien. Moi, je me souviens une fois, avec un détenu, il avait vu la veille une émission de télévision sur Édith Piaf. On a passé notre parloir à chanter des chansons d'Édith Piaf. C'était amusant. Et je suis sûr que... Alors, moi, en ce qui me concerne, et lui, c'était pareil, ni l'un ni l'autre, nous n'étions en prison pendant cette heure de parloir. On était comme deux amis à la terrasse d'un café ou des trucs comme ça, à chercher des chansons, à chercher des airs. Des fois, on pleure, des fois, on chante, des fois, on rit, des fois, ça dépend des fois. On rencontre des gens très, très différents les uns des autres. Alors, c'est une des caractéristiques, c'est qu'on ne choisit jamais, bien entendu, les détenus et qu'on ne fait aucune ségrégation vis-à-vis des condamnations. On n'est pas là pour les juger, les gens. On n'est pas là pour les juger. Donc, j'ai eu à la fois des pédophiles, des meurtriers, des trafiquants de drogue. J'ai eu, je crois, à peu près de tout. Hein. En 12 ans, j'ai vu à peu près toutes sortes de catégories de gens.
Et qu'est-ce que vous avez au préalable sur cette fiche bleue dont vous nous parliez ?
Rien. Le nom, simplement. Le nom, le numéro du bâtiment, le numéro de la cellule, etc. Mais je ne connais absolument pas les gens. On ne se peut jamais se mettre à la place d'une personne détenue. J'ai eu le malheur de dire ça un jour à un détenu. Il m'a dit, tu peux pas te mettre, tu peux imaginer, mais tu peux pas te mettre à notre place. C'est pas possible. Être condamné, par exemple, être dans une salle et puis être condamné à 20 ans. Imaginez que là, aujourd'hui, là, un moment où on parle, vous tombe sur la tête 20 ans de condamnation de prison, que vous n'allez pas sortir de cet établissement pendant 20 ans. Pas de Noël, pas de pommier de l'an, pas d'anniversaire, rien. Que vous verrez vos enfants, vos petits-enfants, etc., que par des moments de parloir d'une heure et un quart, c'est tout. C'est pas possible de se mettre dans la peau de ces gens-là. The light is there. Yeah, yeah. You see, I come from Mississippi. I was young and running wild. Ended up in New York City, where I had my first child. I named the boy Nasir. All the boys call him Nas. I told him as a youngster, he'll be the greatest man alive. Let's go! Une des questions qu'on ne pose jamais, c'est pourquoi tu es là. Ça, c'est une chose qu'on ne fera jamais parce qu'on n'est pas... Les juges qui ont, eux, des rapports de police, de gendarmerie, de psychiatres, etc., peuvent même se tromper. Nous, qu'est-ce qu'on a comme information ? Ce que veut bien nous dire la personne détenue. Et bien entendu, c'est toujours édulcoré, en quelque sorte. La responsabilité est minimisée dans l'affaire. Donc, on ne peut pas se permettre de juger. Par contre, ce qui nous arrive souvent, enfin ce qu'on fait fréquemment, c'est qu'on essaye de... Et un jour ou l'autre, ils nous disent pour quel motif ils sont là. Tu sais, hein, bon, je ne te l'ai pas dit, mais enfin, je suis là pour ça. Tous, vous m'entendez ? Tous ceux que j'ai eus ont une vie d'adolescent, si vous voulez, en quelque sorte, déplorable. Et on finit par avoir pitié de ces gens-là. Alors je vais vous en raconter une, parce que autrement je serai là ce soir jusqu'à 18h. C'est le deuxième d'ailleurs que j'ai rencontré qui était comme ça. Il avait des parents, et puis avec trois frères et une sœur. Son père a commencé par violer sa sœur. Comme sa mère n'a pas réagi, elle s'est mise dans la boisson, et quand il ne violait pas la sœur, il violait le chien. Sa mère s'est mise dans la boisson. À 6 ans, il faisait le tour, quand il rentrait de l'école le soir, vous imaginez, un petit gamin de 6 ans quand même, hein, c'est pas vieux, il faisait le tour des placards de la maison pour ramasser les bouteilles de vin et les jeter dans le puits, dans le fond du jardin. Un jour, il en a eu ras-le-bol. Il devait avoir 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Il en a eu ras-le-bol. Il était voir les parents d'un petit copain qui était avec lui à l'école. Puis il s'est entendu avec les familles en disant « Est-ce que vous pourriez pas m'emmener pendant les vacances parce que j'en ai marre de la maison ?»« Tes parents sont d'accord ?»« Oui, oui, oui. » Et le voilà parti avec la famille du petit copain. Il est parti au fin juin, à la sortie d'école. Il est revenu le 1er septembre. Ses parents ne se sont jamais inquiétés d'où est-ce qu'il était parti. Quand son père l'a vu revenir le matin, il lui a dit « Tiens, t'es de retour ?» À 16-17 ans, il a quitté la maison. Il est allé à Paris, où il a trouvé un garagiste qui l'a pris comme arpète. Bon, pour nettoyer le garage. Et puis, il lui a dit, écoute, hein, au-dessus du garage, il y a une chambre. Si tu veux, tu lâches là-haut. Moi, je ne veux pas savoir. Hein. Tu te débrouilles, tu fais ce que tu veux. Il y a une chambre, tu fais ce que tu veux. Bon, ben, le v'là, il avait un peu d'argent. Il y a un peu d'argent. Il avait un logement impeccable. Le samedi et le dimanche, bah, comme tous les gamins, il sortait. Il allait au café d'en face faire un flipper avec une bière. Jusque-là, rien de mal. Ben oui, mais c'était dans une banlieue mal fréquentée. Il s'est fait racketter plusieurs fois. Son blouson, ses chaussures, je ne sais pas quoi, etc. Un jour, il en a eu ras-le-bol. Et après s'être fait racketter, il est monté dans sa chambre. Il avait un revolver, il est redescendu, il a tué trois gars. Alors, ce type-là, pour finir quand même bien l'histoire, ce type-là est sorti de détention. Je l'ai accompagné pendant un certain temps. Il est allé vivre chez sa sœur, celle qui avait été violée pendant toute son adolescence. Et il me téléphonait de temps en temps, me disant, tu sais Henri, j'ai pas de boulot, etc. Puis un jour, il me téléphone en disant, ça y est, j'ai trouvé un boulot, parce qu'il avait appris le métier d'électricien en détention. J'ai trouvé un gars qui me prend et ça marche. Bon, ben, j'ai dit, c'est bien. 3 ou 4 mois après, il me téléphone disant, j'ai un souci. Alors, je dis, quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il me dit, voilà, le patron chez qui je suis va partir en retraite. Il voudrait que je reprenne sa société. Et puis, 6 mois à peu près après, il m'a retéléphoné me disant, tu sais, Henri, hein, je suis devenu PDG. Hein. Bon, depuis, je sais qu'il est marié, qu'il a une petite fille. Il y a un avant, un pendant et un après la prison. Et généralement, cette période de la détention, ils essayent d'oublier. Hein. Let's go. This rap skit styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it, but I'm still number one. Everyday real, speak what I want. I don't care what y'all feel, 'cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost, and his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy. Now we getting busy, bridging the gap from the blues to jazz to rap. The history of music on this track. Born in the game, discovered my father's music like Prince searching through boxes of purple rain. But my Minneapolis was the bridge, home of the super kids. Some are well known, some doing bids. I might have ended up on the wrong side of the tracks if Pops wouldn't have pulled me back and said, yo, yo.
En fait, on vous a rencontré lors d'un repère l'année dernière, et je me souviens que vous et d'autres intervenants racontiez comme les détenus, à leur sortie, sont démunis et ont du mal à se remettre en contact avec des réalités qui, nous semblent toutes bêtes.
Alors, effectivement, si vous voulez, par exemple, ça fait 3 ans à peu près qu'il a été libéré, ce type-là. Quand il est sorti, il n'avait jamais vu ce que c'était que des euros. Quand il est rentré en prison, et c'était le franc. Donc, quand je lui ai donné, je lui ai donné 10 euros pour qu'il aille chercher un paquet de tabac, eh ben, il m'a regardé toutes les pièces et puis tous les billets qu'il rendait, parce que ben, pour lui, c'était comme des dollars américains. Alors, ils ont aussi une autre difficulté. La dernière fois aussi, j'en avais un qui est comme ça, mais alors lui, bon, il est un peu pénible. Il est un peu déphasé, un peu psychologiquement, il n'est pas bien. Et c'est pareil, il voulait acheter un paquet de tabac, donc je garde ma voiture, puis je lui dis, tiens, il y a un bureau de tabac juste en face. J'ai cru qu'il n'allait jamais traverser la rue. Dès qu'il voyait une voiture, mais au loin, on aurait eu le temps de traverser 3 ou 4 fois, hein, il n'appréciait plus la distance à laquelle roulait le véhicule. Il avait toujours peur d'être écrasé par la voiture. Quand vous n'avez plus eu à traverser une rue pendant 17 ou 18 ans... Moi, c'est aussi un truc que je fais quand c'est des gens qui arrivent en fin de peine, c'est de leur dire, bon, tu sais, une boule de pain, c'est 90 centimes. Un litre d'essence, c'est 1,35 €. Je leur donne des prix, de façon à ce qu'ils s'imaginent. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me dire le prix de la baguette de pain il y a 7 ans? Ça déface complètement. Attendez. Je suis sur un bateau qui prend l'eau et chaque semaine, votre visite me permet d'écoper et d'éviter de couler. Dès le mardi soir, je me réjouis, car le lendemain, vous venez me voir. Vous êtes le seul repère de ma semaine. En 2 ans de prison, vous êtes la seule personne à m'avoir appelé par mon nom. J'ai changé parce que vous m'avez fait confiance. J'en aurai comme ça des dizaines de témoignages. Quand vous êtes en détention, avec qui voulez-vous parler ? Le co-détenu ? Oui, peut-être. Il y a peut-être des gens avec qui vous avez un certain attachement, etc. Vous avez peut-être une certaine intimité. Mais bon, tout le monde a fait l'expérience de gens avec qui on a fait confiance. On leur a confié des choses confidentielles, en quelque sorte. Et puis finalement, ils vous trahissent. Et en prison, 10 minutes après, toute la prison est au courant de ce que vous souliez et ne pas que les autres connaissent. Le surveillant ? Oui, il a bien le temps de discuter avec vous, mais un petit quart d'heure, 20 minutes, grand maximum, pour voir des problèmes de compagnonnage ou de voisinage ou des trucs comme ça. Mais il n'a pas le temps de rester à discuter avec vous. L'avocat, il ne faut pas y compter sur lui. Ce sont la plupart du temps des avocats commis d'office qui viennent une demi-heure, trois quarts d'heure avant le jugement et puis qui disparaissent après. La famille, oui, la famille, on peut discuter avec eux, mais... Bien souvent, les gens qui sont là sont condamnés suite à des faits alcooliques ou de drogue. Et comment voulez-vous qu'un homme se plaigne des conditions dans lesquelles il vit à sa femme alors que sa femme subit les conséquences de son enfermement ? Parce que lui, il est en prison, c'est certain. Mais madame, elle est toute seule dehors avec les enfants, tous les ennuis, tous les problèmes. C'est elle qui a tout à gérer. Quand je rentre le samedi matin, il y a des enfants qui viennent voir leur papa, là, hein, qui se ramènent avec des dessins, vous voyez, un petit soleil. J'imagine la situation. Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison ? Quand on a 6 ans, 6 ans pour vous, c'est toute une existence, 6 ans. Et quand le père doit dire, j'en ai pour 6 ans. Hein ? Donc, avec qui voulez-vous parler quand vous êtes en détention ? Il n'y a que les visiteurs de prison. Ils sont sûrs qu'on garde le secret des entretiens. Hein, et on n'a aucune influence sur la condamnation ou la durée de la peine, etc. Ils savent qu'on est des bénévoles. On n'est pas quand même sans rencontrer quelqu'un tous les samedis, sans avoir un lien d'amitié. On va dire ça comme ça, d'amitié avec ces gens-là. Hein. On finit par être des confidents, effectivement. Parce que, si vous voulez, ça fait partie aussi de notre charte, on est tenu au secret de nos entretiens. Le directeur de la prison peut venir me voir, me demander si ce que je pense d'un tel ou un tel, je ne dirai pas.
C'est une nuit conventionnelle, un chien aboie, une chouette ulule, les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère, si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche, 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte, et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ,
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève.
Les conditions de détention sont infectes. Infecte dans le sens, si vous voulez, que par exemple, alors on va y passer devant tout à l'heure, la prison qui est là, alors je ne suis plus sûr si c'est 128 ou 129 cellules, mais enfin je sais qu'il y en a une qui est fermée parce que le directeur a jugé qu'elle était dangereuse, le plafond menaçant s'est tombé sur les habitants d'en dessous. Donc ils sont, alors mettons qu'ils sont 128 cellules et ils sont 450. Donc 450 dans 128 cellules. D'accord ? 3, 4 cellules. Chaque cellule fait 9 mètres carrés. Donc dans 9 mètres carrés, il faut mettre 4 lits. 4 armoires. Une table. 4 chaises. Un lavabo. Des WC. Ben vous bougez plus. C'est tout simple. Alors, on va imaginer quelque chose assez, assez courant, malheureusement. Vous êtes condamné à 8 jours de prison ferme. Bon, donc vous arrivez, vous négociez avec quand même le juge à la période dans laquelle vous allez faire votre temps de détention. Et vous arrivez un lundi matin avec votre petite valise, avec à l'intérieur de l'eau de Cologne. Un livre que vous n'avez jamais eu le temps de lire, un livre broché que vous n'avez jamais eu le temps de lire en disant ben, « je vais peut-être pendant 8 jours, je vais peut-être avoir le temps de lire ». Une bombe à raser pour les hommes, enfin bref, tout un tas de choses et des produits d'hygiène, etc. Tout ça, c'est interdit. L'eau de Cologne, parce que vous pouvez vous saouler avec. La bombe à raser, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, donc on l'interdit. Le poste de radio, ben c'est pareil, il faudrait le démonter pour savoir s'il n'y a pas de la drogue à l'intérieur, donc on l'arrête. Et puis le livre broché, ben c'est pareil, dans l'épaisseur de la machine, on aurait pu mettre de la drogue, donc on vous confisque tout ça. Une fois que vous êtes, qu'on a fait le tri de vos affaires, il y en a une partie qui part à la fouille et une partie qui reste avec vous, dans un sac poubelle, parce qu'on vous garde, vous n'avez pas le droit à votre valise, bien entendu. À ce moment-là, on vous fait déshabiller entièrement nu. Et puis une fois que vous êtes entièrement nu, on vous fait tousser et on regarde dans votre anus si vous n'avez pas caché de la drogue. Après, on vous fait rhabiller. Et on vous fait passer dans une pièce dans laquelle vous allez prendre un matelas, des couvertures, un drap, une paire de draps, etc. Et on vous emmène dans une cellule où il y a déjà 3 gars. Le premier, c'est un toxicomane. Donc pour l'instant, il n'a pas beaucoup de drogue, il n'en a pas beaucoup, pas du tout. Et donc on lui donne un médicament de substitution qui s'appelle la méthadone. Mais bon, un regard un peu plus appuyé, une réflexion, etc., c'est tout de suite la bagarre. Vous avez le deuxième, lui, il râle parce qu'il n'a pas vu son avocat depuis déjà un certain temps, il va bientôt passer en jugement, etc. Et ça l'énerve tellement qu'il fume cigarette sur cigarette. Et vous ne supportez pas le tabac. Le troisième, eh ben, lui, il vient d'être condamné. Il va partir en centre de détention d'ici 2 ou 3 jours, quelque chose comme ça. Mais il vient de savoir qu'il vient d'être condamné à 7 ans de prison et sa femme vient de lui envoyer un petit courrier en lui disant qu'elle demandait le divorce. Donc il ne voit plus ni sa femme ni ses enfants. Et ça lui monte tellement à la tête qu'il regarde la télévision jusqu'à 3 heures du matin. Et vous vouliez dormir. Voilà les conditions dans lesquelles on vit à la maison d'arrêt, là, ici. Tout près. Dans les centres de détention, c'est un peu mieux, si vous voulez. Dans les maisons d'arrêt, le directeur est tenu de prendre tous ceux que la justice lui présente. Il ne peut pas dire « c'est complet, j'en veux plus, c'est fini ». Il est tenu de prendre tous ceux que la justice lui envoie. Dans les centres de détention, il fait un peu le tri, hein, dans le sens que, il peut demander au directeur interrégional, par exemple, de dire, bah, écoutez, moi, je suis complet, vous pouvez peut-être en envoyer un à Angers ou 2 à Rennes ou des trucs comme ça. Donc, il y a un numerus clausus qui est assez respecté, en gros. Hein. Donc, en moyenne, enfin, il faut attendre quelques fois. Alors, vous avez le quartier arrivant, quand vous arrivez au centre de détention, vous avez le quartier arrivant, là, vous êtes plusieurs dans les mêmes cellules, pareil. Bon. Et puis après, bah, vous pouvez obtenir, mais pas tout de suite, mais au bout d'un certain temps, vous pouvez obtenir une cellule individuelle. Donc là, c'est quand même un peu mieux, un peu plus acceptable. Alors, je reviens sur les maisons d'arrêt. Sur les maisons d'arrêt, le règlement est très strict. Les portes sont fermées toute la journée. Si vous voulez aller à la bibliothèque, il faut demander l'autorisation au surveillant. Si vous voulez aller faire la promenade, c'est pareil. En centre de détention, les portes sont ouvertes le matin de 7h à 17h, 17h le soir. Donc, vous n'avez pas le droit de changer d'étage, mais vous pouvez aller voir un copain qui se trouve dans la cellule d'à côté ou des trucs comme ça. Vous pouvez aller prendre un café, vous pouvez aller discuter avec Pierre-Paul ou Jacques, etc., selon les affinités. En maison d'arrêt, très peu d'activités. Très, très peu d'activités. D'abord parce qu'il y a un turnover de personnes qui partent, qui viennent, qui rentrent, qui sortent, etc., considérable. En centre de détention, il y a des activités, soit culturelles ou artistiques, et il y a des ateliers où vous pouvez travailler. Alors, problème du travail. L'administration signe un contrat, par exemple, avec L'Oréal, pour faire de la mise du conditionnement, etc. Mais L'Oréal ne connaît pas les personnes qui sont placées sous sa responsabilité, qui font le travail. Elle les ignore. Donc, ces gens-là n'ont pas véritablement de contrat de travail. Ils ne savent pas ce que c'est que le chômage. Ils ne savent pas ce que c'est que les périodes de congés payés. Quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail. Point. Et ils ne sont plus payés. Et ce sont des activités, alors je vais dire, pour les occuper. Parce que, en gros, alors, il faut savoir que l'argent qu'ils gagnent quand ils travaillent comme ça, pour L'Oréal ou pour d'autres activités, c'est divisé en trois parties. La partie cantine, la partie pécule libératoire, et puis, dites-moi donc, paiement des victimes. Oui, indemnisation des parties civiles, voilà, c'est chercher le terme. Partie civile. Donc la somme est divisée en trois, et en gros, quand il leur reste 200, 250, 300 euros par mois, c'est bien, c'est pas mal. Le pécule cantine, ils en font l'usage qu'ils en veulent. Mais il faut savoir aussi qu'en prison, vous allez certainement être surpris, mais tout se paye, tout s'achète en prison. Vous voulez la télévision ? Ben, faut la louer. Vous voulez le frigo ? Ben, faut le louer. Tout.
Qu'est-ce qu'ils ont sans argent ?
Rien. Rien ?
La nourriture, par exemple.
Ah bah oui, la nourriture, oui. Alors, ils ont la nourriture et les produits d'entretien pour la cellule. Si vous voulez, de l'eau de javel, une serpillière et un balai. Là, ils ont ça. Ils ont ça tous les mois. Bon. Mais en dehors de ça, des produits d'hygiène. Alors donc, si vous voulez, il y a des accords qui sont passés avec le Secours catholique et puis la Croix-Rouge pour ce qu'on appelle les indigents, ceux qui n'ont rien. Il faut bien quand même que s'ils veulent s'acheter un paquet de tabac, donc ils ont droit à 20. Alors selon la générosité du Secours catholique et de la Croix-Rouge, ça varie d'une prison à l'autre, mais c'est entre 20 et 30 euros par mois.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leur cellule rêvent de creuser un tunnel.
Je cherche sans y parvenir une position pour dormir.
Aboie le chien, ulule la chouette.
Je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours. Une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours.
Au bout d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat. Bonne à manger, pas pour le lucre.
Je les cacherai pas sous mon matelas.
Je vous fais porter une brioche, fourrée avec une pioche. 10 mètres de corde environ, dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout car j'ajoute une lime dans le pâté en croûte. Et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ,
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Mais le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Et avant que le jour se lève, si vous trouvez la fève. Le jour se lève, si vous trouvez la fête.
Quand j'ai commencé à être visiteur de prison, donc il y a 12 ans, il n'était pas rare d'avoir des réflexions du genre de celle-ci, de la part des surveillants. Il n'y a qu'à les laisser crever dans leur merde, ces gars-là, etc. Bon, c'était à une certaine époque. Maintenant, si vous voulez, les gens qui viennent, qui sont des surveillants de l'administration pénitentiaire, ont se recruté à un autre niveau qu'il y a quelques années. Et maintenant, il faut avoir le bac hein, pour être surveillant. Ils ont une autre mentalité, une autre perspective. Et ils savent très bien qu'on est un facteur d'apaisement, nous, les visiteurs. Alors, c'est une chose, et c'est une règle aussi, ça. C'est de toujours dire... le jour et l'heure à laquelle on va revenir. Parce qu'en détention, on attend. On attend la visite de l'avocat. On attend la famille. On attend l'ouverture des portes pour aller... Et le temps ne passe pas de la même manière que pour nous, vous et moi. Donc, il faut que... Ça, c'est une règle aussi qu'on s'impose. C'est de dire, bon, je te quitte aujourd'hui, mais je reviendrai mardi de la semaine prochaine à 3 heures. Parce qu'il faut pas. On pourrait toujours se dire, de toute façon, il est en prison, il risque pas de se sauver. Si je viens, il sera toujours là. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, surtout en centre de détention, il peut aller à la cour de promenade, il peut aller à la bibliothèque, il peut aller voir le médecin, il peut. Bon, donc il n'est pas toujours dans sa cellule. Et si je viens à un moment où c'était pas prévu et puis qu'il est absent, c'est la réponse systématique des surveillants, refusée. La première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, quand même, bon, la dernière fois, on s'était bien quittés, bons amis, etc. Non, non, c'est parce que, tout simplement, le surveillant, il ne veut pas aller se casser la nénette, aller chercher, voir si Pierre, Paul ou Jacques, il est dans la cour de cour de prison ou à la bibliothèque, etc. Donc, refuser.
Et alors là, vous parliez donc de l'association. Il y a une association de visiteurs de prison. Comment elle s'est montée? Quel est son objectif?
Alors, ça a commencé en 1932. C'était religieux à l'époque, ça s'appelait les œuvres pontificales de la visite aux prisons. Bon, et puis petit à petit, bien entendu, ça a évolué et c'est devenu l'Association nationale des visiteurs de prison en 1956, quelque chose comme ça. Actuellement, on est 1500 sur toute la France, dont 1200 qui sont véritablement des visiteurs de prison. Il y en a d'autres qui sont des sympathisants, qui sont cotisés, etc. Et alors, sur la région de la région pénitentiaire de Rennes, on est 350, 40 sur Nantes.
Et les objectifs, je dirais, affichés de l'association sont...
Aider et soutenir les personnes détenues et leurs familles pendant le temps de la détention. Si vous voulez, on a ce qu'on appelle des groupes de parole, c'est-à-dire que nous nous réunissons, nous, équipe de visiteurs de prison, une ou deux fois par trimestre, avec un psychologue. Hein? D'accord. Et chacun a la libre manière de parler, etc. Exprime ce qu'il a rencontré, ce qu'il a eu comme difficulté. Il voit auprès des autres comment les autres auraient réagi à sa place, quelle est sa réaction, etc. Donc ça, c'est une information aussi qu'on a.
Et est-ce qu'il y a d'autres visiteurs de prison qui éprouvent des difficultés à ce qu'ils font?
Oui. Oui, oui, parce que, bon, j'ai eu en particulier une femme pendant un certain temps. Alors, elle avait un détenu, c'était véritablement un pervers, ce type-là. Quand il venait au parloir, il lui racontait ses rêves. Mais ses rêves, c'était toujours des histoires de tueries, de couteaux, de trucs sanguinolentes, etc. Et il se plaisait, il avait le plaisir de faire pâlir sa visiteuse au fur et à mesure qu'il racontait des conneries. Alors elle m'a dit, monsieur Henri, mais je ne peux pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer avec... J'ai dit, arrêtez surtout, arrêtez d'aller pas vous mettre dans des états pareils. Ça, c'est un type, il faut rendre le carton à l'administration pénitentiaire en disant, écoutez, donnez-moi quelqu'un d'autre, mais celui-là, j'en veux plus.
Vous êtes fouillé avant les visites?
Non, jamais.
Ça, c'est par amabilité?
C'est par convention. C'est par convention. Il faut vous dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une enquête de gendarmerie ou de police qui est faite pendant le temps où on fait les démarches pour l'agrément. Et donc, on nous fait confiance. On nous fait confiance.
Et est-ce que vous êtes autorisé, par exemple, à amener un jeu de cartes ou des choses à faire?
Non. On ne rentre rien, on ne sort rien. On ne rentre rien, on ne sort rien. Ça, c'est une règle absolue.
Même un bonbon, même...
On le fait. Hein. Pendant un certain temps, même, on avait un surveillant qui était sympa, on prenait le café avec lui, et puis les autres détenus aussi.
Dans
les parloirs. Alors, au bout des parloirs, il y a un lavabo avec de l'eau chaude. Ben, on amenait des petits cafés, les machins, etc. Puis il y en a un jour, qu'est-ce que vous foutez avec ce truc-là? Ramassez-moi tout ça. Bon, depuis c'est fini, mais enfin bon, pendant un certain temps, on l'a fait ça, on prenait un petit café, je trouvais que c'était pas mal.
Avui s'ha enterrat la sardina, avui s'ha enterrat tot el peix, podrit, pudent, malolent. Avui els amics s'han mirat, avui els amics s'han parlat, avui han parlat per parlar.
parler des psychiatres. Alors, il faut savoir que le juge d'application des peines peut, quand les gens arrivent aux deux tiers de la peine, obtenir une permission. Mais il prend ses précautions. Et il exige, si vous voulez, que les détenus, même s'ils sont normaux, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, voient au moins deux psychiatres.
Attendez, vous dites que seulement aux deux tiers de la peine, on peut avoir une permission. Bien sûr, on est condamné pour 20 ans, par exemple, c'est qu'au bout de 13 ans,
voilà.
C'est-à-dire que pendant les 13 premières années...
Ils ne sortent pas. Ils ne sortent absolument pas. Vous pouvez obtenir la première permission qu'aux deux tiers de la peine. Et alors, bien entendu, quand on arrive aux deux tiers de la peine, la première demande que vous faites, elle est refusée. C'est presque du systématique. Alors, pour avoir une permission, il faut travailler, essayer de travailler tout au moins, payer les parties civiles, hein, et aller voir le psy. Donc, le gars va faire sa première demande et ça sera refusé, presque systématiquement. Alors, de ce fait-là, si vous voulez, les psys qui sont en prison, ils sont submergés, parce que non seulement ils ont les patients qui sont véritablement malades psychologiques, mais ils ont tous ceux qui demandent une permission de sortie et que le juge dit « Ah, vous n'avez pas, le papier du père du psy ? Ah ben, je ne les accorde pas. » Donc, les psys, ils ont des carnets comme ça, et si bien que des gens qui mériteraient d'être suivis d'une manière plus fréquente, si vous voulez, on les voit tous les 3 ou 4 ou 6 mois, des trucs comme ça.
Et est-ce que ça vous semble justifié, cette visite préalable à la permission ?
Alors, moi, j'ai questionné une fois le juge d'application des peines. C'est vrai qu'il y a des fois, si vous voulez, il libère des gens qui font des mauvais coups pendant qu'ils sont en permission. Il me dit, monsieur Henri, vous savez, moi, je dors tranquille que le jour où je donne pas de permission. Hein.
On va faire un tour de... Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais.
Alors là, on sort et on va faire le tour de la maison d'arrêt qui se trouve pas loin d'ici, pas loin de l'ancien tribunal.
Et donc là, on voit des fenêtres qui donnent sur la rue. Et ça, c'est des fenêtres de cellules ou
Ah c'est, oui, c'est des fenêtres de cellules, ça. C'est des fenêtres de cellules, ça.
Donc les gens à l'intérieur voient ce qui se passe à l'extérieur.
Je ne sais pas pour celle-ci si c'est pas des vitres teintes, enfin des vitres opaques, si vous voulez. Regardez, on voit pas les visages là-dedans.
Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se postent ici pour
c'est ce qu'on appelle des parloirs sauvages, mais avec la circulation ici, c'est pas facile d'échanger la conversation. Par contre, il est facile de temps en temps de jeter des portables par-dessus le machin, par-dessus le mur.
Les fenêtres faisant à peu près 50 cm de côté, j'ai très mauvaise impression. Il faut être assez habile hein, pour arriver à jeter quelque chose.
Vous savez, il y en a qui sont très adroits. Hein.
Ouais. Et là, ce qu'on voit donc.
C'est un mirador.
Mais parce que là, en fait, donc là, on longe un mur hein, qui est assez haut. Entre le mur et le bâtiment qu'on voit, qui doit être à quoi 2 mètres derrière le mur, oui. Qu'est-ce qu'il y a en fait ?
Là, je sais pas. Je sais que là, enfin, pour avoir, parce que bah, c'était dans ma partie, ça, autrefois, des photographies aériennes, la cour se trouve au centre.
Oui.
C'est en quelque sorte un octogone. Et au centre, il y a les 4 cours. Alors, je tiens à une chose que je ne vous ai pas parlé, c'est le taux de suicide.
Oui.
Il faut savoir qu'en prison, sur l'ensemble de la France, il y a une centaine de suicides par an. Et à tous les 3 jours.
Sur une population de
62 000 personnes. 62, 63 000, je sais pas, peut-être un peu plus maintenant. 67 peut-être, on va arriver maintenant. Donc, il y a un suicide par jour, un suicide tous les 3 jours en prison. C'est 7% de plus que dans la population habituelle.
Est-ce que ça vous est arrivé de croiser ce genre de cas, même de loin, sans que ce soit...
C'est très difficile à détecter. Moi, je sais que j'ai eu un détenu comme ça, que j'ai suivi pendant très longtemps. Le samedi, quand je l'ai quitté, il était bien, on a discuté tous les deux, etc. Et le samedi d'après, quand je suis venu, on me dit, lui, il a fait une tentative de suicide, il s'est ouvert les veines, il était à l'hôpital. Comment ça se fait que j'ai pas vu qu'il était dans tel état ? J'avoue franchement que je me suis toujours posé la question, j'ai pas de réponse. Hein. Il y a tout un tas de motifs, si vous voulez, qui agissent sur le mental des gens qui sont en détention. Ça peut être le refus d'une permission, Ça peut être une visite qui n'est pas accordée, ou une famille qui ne vient pas les voir, ou une mauvaise nouvelle de la part de l'avocate. Tout un tas de choses qui peuvent entrer en considération, qui font que les gens se suicident. Et on a eu le cas, enfin moi j'ai lu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai lu le cas de quelqu'un qui s'est suicidé la veille de sa libération. Eh oui, un jeune. Il avait été condamné à, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines de prison, et il s'est suicidé le 14e jour.
Est-ce que, ouais. Alors on peut penser que c'est dû à des choses qui soient extérieures à...
Voilà. Il y a tout un tas de trucs. Et le suicide en prison, c'est une maladie, enfin c'est une tare considérable de l'administration, ça. Hein. Alors, ce qu'ils font, c'est que, et c'est ça qui est le problème quelquefois, c'est qu'ils mettent deux détenus dans une même cellule en disant à l'autre, vous allez le surveiller parce que s'il fait des tentatives de suicide.
Voilà. Est-ce que ça marche, ça ?
Il est certain, si vous voulez, qu'on ne peut pas mettre un surveillant derrière chaque détenu. Il n'y aurait pas assez. Donc, on demande aux autres de faire de l'autosurveillance, en quelque sorte. Ça marche plus ou moins, des fois.
Avui del somni s'ha rigut. Avui no s'han sentit pas vençuts. La llàgrima anà aixecat, bailat. Són bons per haver-la enterrat. Era un peix pudent malolent. Se'ls ha podrit i ningú n'ha menjat.
Le regard des autres aussi. Et le regard des autres. Il faut savoir, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, que les familles sont victimes aussi de la détention. Combien de gens, enfin de collègues sympas qui vous disent « Ben alors, tu nous parles plus de ton mari, qu'est-ce qu'il fait ?» Sachant très bien qu'il est en prison, n'est-ce pas hein. Elle va disparaître, hein, cette maison-là. Hein. Il y a la maison d'arrêt, elle est actuellement en construction à Carquefour. Et celle-ci devrait terminer dans le... Enfin, elle devrait se fermer dans 2011-2012, hein, à peu près. Je ne sais pas exactement.
Qu'est-ce que ça va devenir, du coup, ces bâtiments ?
On a posé la question au directeur de l'administration, de M. Page, là, qui s'occupe donc des prisons de Nantes. Il me dit, de toute façon, je ne sais pas, mais l'argent ne me revient pas chez moi.
L'ancien palais de justice va devenir un hôtel de luxe.
Tout à fait.
Donc ça fait pas très bonne image quand même, une prison.
Alors, à moins qu'ils transforment les cellules en chambres particulières, j'en sais rien.
Bon, bah merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci de vous.
Moi, j'aime bien parce que, si vous voulez, il faut essayer de faire changer la mentalité de la population. Il m'est arrivé, il n'y a pas tellement longtemps, de prendre le bus juste au centre de détention. Là, il y avait une dame qui parlait avec la femme qui était conductrice. « Oh, tous ces mecs-là, devrait y avoir les passer à la chaise électrique, ça nous coûterait moins cher. » Et c'est l'ambiance d'un certain nombre de nos concitoyens. Hein, j'ai un collègue l'autre jour qui a été interrogé par une radio comme ça, mais alors c'était en direct si vous voulez, donc les gens à la fin de son intervention, mais il s'est fait presque injurier parce que il avait un peu, aux yeux de certains, un peu trop de compassion vis-à-vis des personnes détenues.
Il y a
encore des gens qui sont partisans de la peine de mort, hein. Et pour eux, les prisons, c'est le Club Med.
La vie est là, qui vous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours tout bleus, des baisers lumineux. C'est magnifique. Donner
son cœur avec un bouquet de fleurs. Oh là là là, mais c'est magnifique. Et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Parti là-bas, lune de miel à Cuba. Oh là là là, c'est magnifique. Sous ce climat, les baisers sont comme ça. C'est magnifique. Des nuits d'amour qui durent qu'un à cinq jours. Oh là là là, mais c'est magnifique. Revoir Paris, retrouver ses amis, c'est magnifique. Oh là là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Avoir de cœur pour faire un seul bonheur. Oh là là là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour à Paris pour toujours, c'est magnifique.